RFI, les 17h à Salvador de Bahia, 4h à Samarcande et 21h à Nuuk, au Groenland. Et c'est à vous pour le journal Gali Bonin, bonsoir.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous et à toutes. À la une de l'actualité, le tremblement de terre dévastateur en Birmanie, on dénombre déjà une centaine de morts. Vous entendrez une habitante dès le début de ce journal. Journée de bombardement au Liban, Israël a frappé la banlieue sud de Beyrouth pour la première fois en 4 mois de trêve. L'État hébreu qui continue ses opérations à Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée. La population locale parle d'une guerre silencieuse, loin des caméras et des médias. L'actualité, c'est aussi les États-Unis qui ont cessé de financer l'Organisation mondiale du commerce. Peut-être une question de survie pour l'OMC. Et qui peut exploiter les grands fonds marins pressés de commencer à miner? Une compagnie canadienne tente de contourner le droit international. La Birmanie lourdement frappée par un puissant séisme ce vendredi. Le bilan officiel s'élève déjà à plus de 140 morts et plusieurs centaines de blessés. Un bilan qui risque de s'alourdir, prévient la junte au pouvoir. Et dans le pays, les communications sont rendues particulièrement difficiles, comme le raconte cette habitante de la ville de Rangoon.
There's not a lot of damage in Yangon, but currently...
Il n'y a pas beaucoup de dégâts à Rangoon, mais nous n'avons pas d'électricité et Internet fonctionne très mal, donc c'est très difficile d'avoir des nouvelles de nos proches. D'après ce qu'on m'a dit, ce sont les villes de Mandalay et de Sagay qui sont particulièrement touchées. Le pont de Sagay est détruit, tout comme les murs du palais de Mandalay. À Rangoon, des mosquées ont été endommagées. Or, ce vendredi, c'était le dernier jour du Ramadan, donc il y avait beaucoup de gens en train de prier. C'est vraiment terrible.
Le tremblement de terre de magnitude de 7,7 a aussi fait des dégâts considérables en Thaïlande. Un immeuble de 30 étages en construction s'est effondré à Bangkok, à plus de 1000 km de l'épicentre du séisme. Au Liban, le spectre d'un retour de la violence après une journée de bombardement. Israël a frappé la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, pour la première fois après 4 mois de grève. Riposte à des tirs de roquettes, se justifie l'État hébreu. Des tirs israéliens ont également fait 5 morts dans le sud du pays. L'armée israélienne dit avoir frappé des infrastructures terroristes. Pierre-Olivier.
Un dépôt de drones à Hadat, au sud de Beyrouth, des rampes de lancement et des terroristes au sud du Liban. Voilà ce que l'armée israélienne affirme avoir visé lors de ses frappes ce vendredi matin, provoquant de vastes scènes de panique, notamment dans la banlieue sud de la capitale. L'armée libanaise, en charge d'enquêter sur ces frappes, a annoncé avoir découvert des rampes de lancement de roquettes installées à la limite nord du fleuve Litani, là où le Hezbollah est censé se retirer, selon l'accord de cesser le feu. C'est la première fois depuis l'entrée en vigueur de cet accord fin novembre que l'armée israélienne riposte à des tirs de roquettes. Déjà un peu plus tôt cette semaine, l'État hébreu avait été visé par des roquettes sans que ces tirs n'aient été revendiqués. En visite à Paris, le président libanais Joseph Aoun a assuré ce vendredi que d'après ses informations, tout indiquait que le Hezbollah n'était pas responsable. Emmanuel Macron a lui dénoncé des frappes inacceptables de la part d'Israël. De son côté, le premier ministre Benjamin Netanyahou a averti qu'Israël frapperait partout au Liban contre toute menace.
Et vendredi, les États-Unis ont indiqué qu'il était de la responsabilité du Liban et de l'armée libanaise de désarmer le Hezbollah et que Washington soutenait Israël après les bombardements dans la banlieue sud de Beyrouth. Et outre le Liban, outre Gaza, il y a aussi la Cisjordanie occupée dans le viseur de l'État hébreu. Les Palestiniens l'appellent la guerre silencieuse, une situation dans l'ombre des autres conflits. À Ramallah, le reportage d'Amira Swilem.
Réfugiés sur nos propres terres, c'est ainsi que certains Palestiniens se décrivent désormais. À Jérusalem-Est, la crainte des bulldozers est dans tous les esprits. C'est le cas notamment dans le quartier de Silouane, qui jouxte la vieille ville de Jérusalem. Ibrahim El-Hendi est le président de l'Association des architectes palestiniens.
Les Israéliens estiment que Silouane correspond à la cité du roi David et donc ils concentrent leurs attaques sur ce quartier. En 2024, 255 maisons ont été endommagées. Je pense qu'ils profitent de la guerre à Gaza pour attaquer ici. Ils en profitent parce que l'attention médiatique est concentrée sur Gaza.
Certains savent leur jour dans le quartier compté. Nous avons ainsi rencontré une famille palestinienne palestinienne qui a réussi à négocier via ses avocats que sa maison ne soit détruite qu'après la fin du Ramadan. Alors que les Palestiniens obtiennent difficilement des permis de construire, la municipalité de Jérusalem traque les constructions considérées comme illégales.
Il est demandé aux Palestiniens de détruire eux-mêmes leur maison ou alors de payer une amende pour que des machines de la municipalité soient envoyées sur place pour détruire le bâtiment en question. Je crois que la Palestine est le seul endroit au monde où les habitants doivent payer pour qu'on vienne détruire leur maison.
Une guerre silencieuse donc, et psychologique aussi, disent les Palestiniens. Amira Suilem, Ramallah, RFI.
C'est une proposition qui fait vivement réagir en Ukraine avant de pouvoir commencer les négociations de paix. Le président russe évoque la mise en place d'une administration ukrainienne transitoire sous tutelle de l'ONU. Demande rejetée en bloc à Kiev, Vladimir Poutine fait tout pour repousser la fin de la guerre, dénonce Volodymyr Zelensky dans sa liste de demandes en vue d'un cessez-le-feu. Moscou exige aussi la reddition de l'Ukraine, l'interdiction pour elle de rejoindre l'OTAN et la reconnaissance des territoires ukrainiens occupés par la Russie. En déplacement au Groenland, le vice-président américain fustige le Danemark pour sa gestion du territoire autonome. En visite sur la base militaire américaine de Pituffik, J.D. Vance accuse le gouvernement danois de n'avoir pas fait du bon travail pour le peuple du Groenland. Il faut que ça change, a-t-il ajouté. Déclarations incendiaires au moment où Washington accentue la pression pour mettre la main sur ce territoire de plus de 50 000 habitants. Dans la journée, Donald Trump a répété que les États-Unis avaient besoin du Groenland, que c'était très important pour la sécurité internationale. Nouvelle offensive dans la guerre commerciale que les États-Unis mènent contre le monde. Washington s'apprête à suspendre toutes ses contributions financières à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Un coup de poignard porté à une institution déjà moribonde, Nathalie Vitrin.
Contacté par RFI, l'OMC confirme que les États-Unis sont classés depuis le mois de février dans la catégorie des pays en retard de paiement, aux côtés du Chili, d'Haïti ou encore de l'Ouganda. De son côté, le département d'État américain indique avoir reçu pour instruction de Donald Trump de mener un audit de toutes les instances et traités internationaux signés par Washington pour voir s'ils sont contraires aux intérêts américains. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'OMC, et avant elle l'institution dont elle est l'héritière, vise à promouvoir et surtout à réguler le commerce mondial en fournissant aux États membres un espace pour régler pacifiquement leurs différends. Un système d'arbitrage qui ne peut fonctionner qu'à la seule condition que les joueurs se plie à ses règles et à ses décisions. Si ce n'était pas encore assez clair, à quelques jours de l'entrée en vigueur le 2 avril d'une nouvelle salve de droits de douane touchant tous les partenaires commerciaux des États-Unis, Donald Trump envoie le message qu'il n'en a plus l'intention et que le temps du multilatéralisme est terminé. Pour l'OMC, ce pourrait être une question de survie. La contribution des États-Unis représente à elle seule 12% de son budget annuel.
Nathalie Vitrin du service économie de RFI. Et c'est une institution méconnue de l'ONU et pourtant son rôle est essentielle. L'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, elle est courtisée par plusieurs grandes compagnies minières qui rêvent d'obtenir l'autorisation d'exploiter les grands fonds. Ils renferment des minéraux métalliques présentés comme essentiels à la transition écologique. Mais la pratique rencontre de plus en plus d'hostilité, notamment en raison des impacts sur l'environnement. Ses promoteurs, eux, n'entendent pas abandonner de sitôt. Les explications de Simon Rosé.
La start-up canadienne TMC lorgne depuis des années sur les nodules polymétalliques. Ces boules de métal parsèment le plancher océanique à plusieurs milliers de mètres de fond dans les eaux internationales. Pour se lancer, l'entreprise a besoin que sa demande d'exploitation soit acceptée par l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, l'organisme onusien compétent en la matière. Cela fait maintenant plusieurs années que le sujet y est discuté et de plus en plus de pays se coalisent pour demander un moratoire sur la pratique. Fatigué d'attendre, TMC a donc annoncé vouloir se tourner vers les États-Unis et faire sa demande d'exploitation directement auprès des autorités américaines, bien que le projet ne se trouve pas dans l'espace maritime du pays, mais au milieu du Pacifique. Washington est en effet signataire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la haute mer, mais ne l'a pas ratifiée et n'est donc pas membre de l'AIFM. En clair, pour TMC, il s'agit de violer les règles internationales en se tournant vers un pays qui ne les reconnaît pas. Reste à voir quelle suite donnera l'administration Trump à cette sollicitation, mais déjà, Laetitia Carvalho, la patronne de l'AIFM prévient, cela saperait les principes fondamentaux du multilatéralisme.
Le compte-rendu de Simon Rosé du service environnement de RFI qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. De retour dans une heure avec plus d'informations. Restez à l'écoute de RFI d'ici là.